Bienvenue à la série Balado Arrière-scène. Mon nom est Alain Roy et je suis le directeur artistique du Théâtre populaire d'Acadie. Ayant œuvré dans les coulisses de nombreux théâtres pour une grande partie de ma carrière, j'ai développé une admiration pour les artistes créateurs et artisans qui font naître la magie du théâtre loin des feux de la rampe. Avec cette nouvelle série, nous donnons la parole à ceux et à celles qui sont au cœur de nos productions théâtrales et qui nous livrent leurs réflexions sur leur démarche créative. Arrière-scène sur Savèche. Savèche est un mot acadien qui désigne un papillon de nuit attiré irrémédiablement par la lumière, comme l'être humain moderne par l'agitation perpétuelle du monde virtuel. Le poète Jonathan Roy en a fait la métaphore centrale de son deuxième recueil de poésie, qui puise au vocabulaire informatique, aux réalités de la génération Y, aux classiques de la littérature et à la culture populaire. Je signe la mise en scène de cette nouvelle production du TPA avec une équipe de création et je me sens choyé d'en faire partie. Monique Légère, à la dramaturgie du mouvement, Claudie Landry à la scénographie, costumes et accessoires, Pascal Lejeune et Jonathan Saunier à l'environnement sonore, Stéphane Ménigaud à la lumière, Ghislain Basque à l'assistance à la mise en scène et régie et Marc Bédard à la direction de production. Notre défi, faire d'un recueil de poésie un objet théâtral. Ces textes, nés pour la plupart lors de soirées de poésie, reviennent donc à la scène sous une autre forme portée par l'auteur lui-même et par le comédien Mathieu Girard, qui est comme son alter ego, un prolongement du poète. Il m'apparaissait intéressant de donner la parole à celui qui est à l'origine de ce projet. Pénélope Cormier, professeure agrégée de littérature, spécialisée entre autres en littérature minoritaire franco-canadienne et enseignante au Centre universitaire de Moncton, campus d'Edmundston, mène cet entretien avec le poète qui, dans ce spectacle, deviendra l'interprète de sa propre personne.
Bonjour Jonathan, j'apprends rien à personne, tu es un poète, je dirais que tu es un des poètes déterminants en Acadie aujourd'hui, puis là, non seulement le théâtre populaire d'Acadie reprend ton recueil Savèche à fragmentation en pièces de théâtre, mais tu te retrouves toi-même sur scène comme un des deux comédiens qui interprètent le texte. Ça fait que j'imagine que ma première question c'est comment est-ce que ça s'est arrivé?
Vraiment par un concours de circonstances. Je veux dire, c'est sûr que dans l'écriture de Savèche, sa fragmentation, j'étais déjà conscient que j'écrivais de plus en plus pour la scène. Mais pour moi, la scène à ce moment-là, c'est genre des micros ouverts, des spectacles littéraires. La scène telle qu'on la conçoit dans un contexte de littérature ou de poésie. Mais en plus, à partir de ça, il y a des textes dans Savèche qui sont tirés de spectacles littéraires carrément. Il y a trois textes qui sont issus de Fuite, les pipelines se couchent à l'est, donc qui étaient vraiment plus... qui avaient déjà comme une coche d'oralité ou de théâtralité ou de un sentiment de se faire raconter quelque chose qui était plus présent dans le ton de ces textes-là. C'est sur Voix rurale que la version qui se retrouve dans Savèche est une version remaniée à la suite de Manifeste Callen, qui était un spectacle littéraire conçu avec Gabriel Robichaud puis Sébastien Bérubé. Donc, qui avait aussi peut-être passé un peu par l'espèce de catalyseur de la scène ou de la présentation devant public ou de la vocalité, en fait, la question du souffle et de la voix. Mais il reste que au départ, je publiais un livre de poésie et en espérant être appelé à le livrer devant le public, tout simplement. Et en fait, ça a commencé à l'époque, il y a François Cormier, qui était directeur du Salon du livre de la péninsule acadienne, qui caressait cette idée-là de faire un partenariat avec le TPE pour des mises en lecture, disons, semi-théâtralisées. Et il a approché Alain Roy, qui a accepté d'entreprendre comme ce travail-là pour une première étape qui était en fait juste de faire une espèce de mise en lecture de one-man show qui a eu lieu une fois à Caraquet en 2019. Mais où déjà, il y avait comme cette dramaturgie-là qui commençait à s'installer autour du texte. Puis bon, de mon côté, ça voulait dire des mouvements qui se rajoutent, des cues de scène, travailler avec l'éclairage, qui était une demande en brainstorm que j'avais un peu. Je voyais mal d'aborder la Savèche puis son attraction pour la lumière sans une attention particulière portée à la lumière. Puis c'est comme ça qu'Alain en est venu à intégrer Stéphane dans le lot. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment un concours de circonstances, des gens qui ont cru que ce serait une bonne idée, puis ça a déboulé de la Savèche jusqu'au Squall, pour me citer, mais jusqu'à finalement en faire une production où je me retrouve à être l'une des voix, mais pas la seule. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça ouvre vraiment les possibles de l'interprétation du livre.
Oui, j'ai l'impression que tout est là dans ce que tu as dit. Ça couvre un peu toutes les interrogations que j'avais, mais si on va creuser un tout petit peu différents aspects de ce que tu viens de présenter, là, c'est que c'est comme tu le dis, c'est quand même pas inhabituel que la poésie sorte de la page, sorte de l'écrit, même si la norme est de publier la poésie en recueil. On fait de plus en plus des performances de poésie, des lectures de poésie. La poésie aujourd'hui est vraiment un genre oral, puis tu as mentionné plusieurs exemples. Le spectacle Manifeste Callen que tu avais réalisé, comme tu dis, avec Gabriel Robichaud puis Sébastien Bérubé, c'était déjà autre chose que de la lecture, qu'une simple mise en lecture, parce que vous avez vraiment comme travaillé un peu, une espèce de travail presque à mi-chemin entre la mise à lecture puis la mise en scène, je dirais, là. Comment est-ce que cette expérience-là, où vous étiez trois à vous répartir le travail, trois poètes, même si vous aviez toutes les trois une expérience de la scène, se compare ou a pu te préparer à celle-ci, où il y a vraiment un théâtre professionnel puis son équipe de créateurs de divers horizons artistiques qui mettent la main à la pâte, là?
Je vais d'abord faire une parenthèse, une sous-réponse au début de ta question. De plus en plus, le terme de littérature vivante est comme de plus en plus répandu dans le milieu pour désigner cette littérature-là hors le livre et tout ce que ça apporte. Et je crois vraiment que la question de la vie du vivant dans tout ça est super importante parce que justement, Manifeste Callen, on est arrivé. Puis la différence, c'est vraiment dans la naïveté de l'approche. C'est-à-dire qu'on est arrivé tous les trois, on était comme, hey, on a trois textes qui sont basés sur l'anaphore. On se met ça ensemble, puis on fait un show avec ça. On s'est rencontrés en une journée. On a fait ça un peu à brûle-pourpoint, comme dans le vif de l'énergie première. Puis c'est devenu Manifeste Callen, puis on l'a retravaillé entre poètes. Avec, c'est sûr, Gabriel, qui avait quand même une notion de la scène pour peut-être nous aiguiller. Mais c'est sûr que c'était quelque chose de très DIY, très do-it-yourself comme démarche, même si on s'est professionnalisé en cours de route puis en ayant le présenté à, disons, Québec en toutes lettres ou au moins de la poésie ou à Edmundston. À force de faire le show, on a fini par faire « OK, ben les éclairages, OK, mais comme des cues de scène, comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on sort? » Mais c'était très DIY, alors que là, c'est sûr que d'être entouré par une équipe de théâtre professionnel, et donc avec tout ce que ça implique, de l'éclairage à la régie, au costume, à la scéno, tu sais, à la musique. C'est, dans le fond, c'est plein de composants, plein de couches qui viennent rajouter des couches de sens au texte, mais qui viennent aussi encadrer sa venue au monde, si on veut, sa venue à la vie différemment que dans une esthétique très « do it yourself » comme Manifeste Callen. Ça amène aussi à se dépasser bien plus, puis ben, ultimement à me rendre compte aussi de mes propres limites, mais aussi de là où je peux aller que je pensais pas pouvoir aller, non.
Grâce à l'équipe de créateurs. Tu
vois. Grâce à l'équipe, grâce à, tu sais, tu veux pas ralentir le groupe, on est super bien encadré. C'est des gens qui connaissent les étapes de travail pour en arriver à un show, donc tu vas petit à petit, bouchée par bouchée, t'essayes pas de tout faire en même temps. Mais oui, vraiment, c'est le rapport. Puis c'est sûr que l'idée, la question d'avoir fait Manifeste Callen puis Fuite avant, je pense, m'aura à tout le moins donné la confiance d'accepter le projet. Parce que je pense qu'il y a 5 ans, je me serais pas lancé. Déjà que j'étais... T'sais, déjà que pour moi, c'est se lancer dans le vide, puis tu as toujours le syndrome de l'imposteur, puis je me considère pas comédien, je suis un poète qui est dans une pièce de théâtre avec son livre. Je suis très conscient de ma formation, de ce que ça m'apporte comme regard sur le monde, sur mon œuvre, mais aussi des choses que je n'ai pas apprises, me mouvoir dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais songé, même quand tu l'écris.
Savèche, c'est un mot acadien qui veut dire papillon de nuit. Je le sais, comme tu parlais tantôt, puis je le sais parce que dans la dédicace que tu fais, j'imagine, de façon régulière. Là. Je sais que tu as une vision, une image, disons, tu te fais une représentation visuelle de ce que c'est parce que tu dessines un papillon, puis tu dessines une ampoule qui est suspendue. Donc, puis tout le recueil joue avec l'obscurité puis la lumière. Ton image, j'imagine que ça a beaucoup alimenté, disons, votre travail, puis le travail des éclairages de Stéphane Méligaud. Puis, donc, c'était-tu un aspect particulièrement intéressant pour toi de la transformation en pièce de théâtre?
Oui, bien, en fait, le rapport à la lumière, c'est quand même étrange parce que nous, on est dedans. Hein. Tu sais, quand t'es sur la scène, t'es dans la lumière, tu vois pas les effets. Fait que finalement, le travail avec Stéphane, c'est beaucoup plus fait en amont. C'est-à-dire qu'il y a eu comme des réunions de debriefing ou avec Stéphane, avec Alain, puis avec les autres participants où moi, j'ai essayé de défricher avec eux mon rapport à cette figure-là de la Savèche, puis ce que ça représente, puis cette idée. Puis tu sais, le regard pour moi de la Savèche, en fait, qui est un regard sur nous, parce que, en fait, la Savèche, c'est nous, c'est la génération qui est attirée par la lumière, mais il est très tendre, en fait. Ça se situe plus dans le tragique de comme c'est vraiment de constater que la Savèche court à sa perte sans le savoir, en pensant atteindre quelque chose de plus grand qu'elle. Puis après ça, le jeu d'ombre et de lumière dont tu parles, bien, c'est vrai que je sais très bien que ma poésie est assez sombre de par le regard qu'elle jette sur le monde. Mais pour moi, c'est pas que sombre. Le simple fait d'écrire de la poésie, c'est de croire qu'il y a de la lumière en quelque part parce que t'écris pour plus tard, t'écris pour le léguer. Fait que déjà, il y a cette lumière-là. Puis dans Savèche, quand j'ai trouvé qu'on allait finir le recueil avec cette espèce de retour-là à comme l'humanité du territoire, puis que c'est là qu'elle allait être la vraie lumière, celle qui réchauffe au lieu de brûler. C'est là que la structure du livre s'est un peu dessinée. C'est ça aussi que j'ai essayé de transmettre à l'équipe quand on en a parlé. Il y a une progression chez le locuteur de l'éclatement du début jusqu'à une espèce de reconstitution de soi à la fin en retrouvant cette lumière-là qui est plus hospitable.
C'est vraiment intriguant ce que tu dis parce que puis c'est peut-être ma lecture qui est un peu faussée, mais j'avais plus l'impression que le poète de Savèche était comme observateur du papillon de nuit qui s'approchait de la lumière, puis qu'il trouvait ça terriblement intriguant, puis comme image du cours à ta perte, puis on dirait que le poète voulait comme l'arrêter. Tandis que là, ce que tu me présentes, c'est vraiment... Ben le poète, c'est la Savèche qui est au milieu de la scène éclairée et qui se débat déjà dans la lumière. Donc, est-ce que c'est un passage d'observateur à
ben, à vrai dire, observer? Pour moi, la vérité, elle est entre les deux points de vue que tu viens de nommer. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste que le poète ne s'exclut pas du monde. Le tu, disons, de la croisée des fourches, c'est un tu universel et autoréférentiel. C'est la génération court à sa perte, moi y compris, j'ai l'humilité de le reconnaître. C'est un peu, c'est plus ou moins ça, puis je me tape sur la tête, puis je tape sur la tête de ma gang en espérant qu'on vire de bord, puis whatever. Mais fait qu'en fait, tes deux avenues de réponse font sens selon le niveau de lecture qu'on veut prendre aussi, parce que bon, après ça, le texte m'appartient plus. Mais pour moi, le tu de Savèche à fragmentation est généralement, est toujours un peu je, mais un peu l'autre aussi.
Oui, puis je pense que ça va être visuellement très bien représenté dans la pièce de théâtre parce que t'as aussi le spectateur qui est là comme observateur, donc qui, et là, il y a une parenté entre les deux. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a aussi une autre personne. Parce que là, il y a un autre comédien sur scène. Donc ici, tu vas être accompagné de Mathieu Girard sur la scène. Et je me demande quelle dynamique que ça crée entre toi, lui et le texte. Donc, est-ce que les perspectives sont divisées ou est-ce qu'il y a comme une espèce de dialogue? Comment tu définirais cette dynamique-là entre les deux créateurs sur scène?
Je dirais que genre de dynamique de continuité d'une part et de contraste, parce que justement, le fait que le jeu soit comme dédoublé sur scène, parce qu'en fait, cet autre-là devient un peu l'alter ego ou la continuité de la voix du locuteur, une espèce d'extension aussi, parce que Mathieu, ne serait-ce que de par sa formation de comédien, est plus physique, donc peut rendre autrement le texte quand il le porte, ou peut aussi accentuer parfois quand c'est moi qui porte le texte. Puis la relation entre les deux est comme mouvante aussi, c'est-à-dire que tout au long du show, parfois l'autre est l'autre, parfois l'autre est un peu un prolongement de soi, un peu comme le locuteur dans Savage. Puis je tiens à cette polysémie-là, c'est-à-dire à cette flexibilité-là de l'interprétation ou des sens qui fait que le spectateur peut voir plus d'une chose. Je pense que dans l'essence, on est juste dans le ton, dans le message. Après ça, je pense que l'intérêt de travailler avec Mathieu, c'est aussi, c'est ça, par contraste, on se porte pas de la même façon sur scène. On s'accuse très peu dans le jeu scénique, tu sais, on se regarde à peine. Puis je pense que ça permet d'accentuer justement cette relation-là entre les deux ambiguës, que parfois quand je regarde l'autre ou l'autre, l'autre personne qui bouge, est-ce que je me regarde moi, est-ce que c'est de l'auto... Est-ce que je me regarde dans un miroir? Est-ce que je regarde au-delà? Puis je pense que c'est correct, puis de laisser cette question-là au spectateur. Mais pour moi, c'est parfaitement en accord avec ce « tu-là » qui est absolument multiple.
Est-ce que tu as l'impression que le travail théâtral a modifié ta façon de mettre ta poésie en lecture sur scène? Parce que tu m'as toujours apparu comme étant un lecteur très introverti. Puis c'est ce qui fait toute ton efficacité sur scène, à mon sens. Puis tu parles de jeu de contraste, puis je le voyais déjà dans Manifeste Calen. Puis je pense que l'efficacité de ce show-là, c'était vraiment entre vos trois modes de lecture-performance qui étaient complètement différents, puis qui fait que les trois entraient en dialogue, puis c'était tout le propos de la pièce, là, d'établir ce dialogue. Et puis, ben, j'allais voir Manifeste en étant un peu inquiète parce que je me disais, est-ce qu'on va perdre Jonathan? Puis là, ben, j'ai comme un peu, pas une inquiétude parce que j'ai vu que ça marche très bien. Puis tu me sembles dire que c'est un peu la même chose, mais as-tu l'impression que ça a transformé un peu ta façon de lire les poèmes sur scène?
Je pense que oui, ne serait-ce que par genre d'osmose, par mimétisme. C'est-à-dire que pendant le travail, quand on faisait des enchaînements, à un moment donné, je me rendais compte que quand j'embarquais ou quand je commençais à lire juste après Mathieu, j'avais pas le même aplomb ou le même rapport peut-être aux intonations ou aux fluctuations du souffle ou de la voix. Puis c'est correct parce que je pense que ça m'amène ailleurs, mais c'est pas un travail conscient. Comme là, on sort de deux semaines de travail de répète, puis je dis que le travail est pas conscient dans le sens que j'embarque dedans à fond, puis je me dis que ce changement-là va s'opérer, mais puis va sûrement continuer, puis je vais sûrement avoir retiré quelque chose de ça au sortir de toute l'aventure de Savèche au théâtre, qui sera peut-être juste un peu différent. Mais c'est sûr que, oui, en effet, à un moment donné, quand j'ai trouvé cette voix-là ou ce souffle-là, qui est peut-être dans le registre de l'introspection ou du souffle syncopé ou de la voix qui lâche à l'occasion, c'était comme une prise de pouvoir sur le micro puis sur le public pour moi. Puis je pense que ça me convient. Puis justement, je me sens pas... Dans un contexte de lecture de poésie, je me sens aussi à ma place ou aussi percutant que quelqu'un qui irait puis qui gueule un texte. D'ailleurs, au début que j'allais au micro, j'étais sûr que pour puncher, il fallait que ça soit vite et fort. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était, dans mon cas, tout le moins tout le contraire. Puis il fallait juste prendre son temps puis laisser couler les mots. Mais c'est vrai que mon rapport à la lecture, en général, est beaucoup plus guidé par le texte, par les mots, par les sons, alors qu'en effet, au théâtre, des fois, ben, l'indication va être... Là, on le joue normal, là, on le joue pour de vrai, comme si tu... On le joue léger. Ben là, ça me force à revisiter ce poème-là que j'ai toujours lu de la même façon, jusqu'à cette fois-ci, puis à finalement trouver peut-être une intention qui a toujours été là, mais que j'avais jamais perçue moi-même, parce que... Tu sais, moi, j'y crois là, qu'il y a des couches de subconscient cachées dans le texte des fois, puis que même moi, je le sais pas. Là. Je le retrouve pas longtemps après.
J'imagine qu'il y a certaines sections du recueil qui se prêtent à différentes lectures et différentes mises en scène. Comme les poèmes du début, là, qui sont plus des poèmes en prose, mais comme une espèce de logorrhée verbale ou du stream of consciousness, là. Tu sais, je les lis, puis je t'imagine les lire, là, à voix haute, mais il y a d'autres, plus vers la fin, qui sont très, justement, plus légers, plus aérés aussi, donc j'imagine que ça peut jouer, ça aussi.
Oui, puis à vrai dire, faut... Tu sais, moi, je suis rentré dans l'aventure en me disant que j'allais rentrer avec, genre... humilité, puis ne pas m'accrocher à la voix que j'entends dans ma tête pour ces textes-là qui est la mienne. Tu sais. Par exemple, La croisée des fourches, ben, jusqu'à preuve du contraire, j'étais la seule personne à avoir porté ce texte-là parce que c'était le mien. Puis, ce que propose Mathieu, parce que c'est un texte dont on se partage un peu les lignes, est très différent du ton avec lequel je l'aborde, mais fonctionne absolument, puis va chercher comme une autre couche, puis permet d'aller peut-être plus surligner des fois l'espèce d'ironie pince sans rire que j'ai dans mes textes, mais que peut-être qu'il y a des lecteurs qui passent par-dessus ou qui ne le voient pas. Mathieu a su capter ça, puis le jouer et le montrer, vraiment le montrer. Mais c'est sûr que la première section, qui est plus stream of consciousness, d'un, c'est plus rushant à apprendre par cœur. Mais oui, c'est sûr que cette section-là est plus dictée par le flow des mots. Puis quand tu arrives à des poèmes comme sur un hour à l'entour de Victoria, mais t'es plus dans le ton de la confidence et du conte un peu, ou du racontage. Puis là, ce poème-là, qui clôt le show, devient comme une espèce de... Tout l'appareil théâtral se met ensemble pour en faire un vrai retour chez soi, et c'est super le fun. Puis c'est sûr que ça m'aide à channeler le conteur.
Ouais, je pense qu'on y touche là, à l'aspect qui me semble particulièrement percutant dans le recueil, puis c'est ou l'espèce de tension qui se dégage entre la participation à un monde virtuel, informatique ou numérique, complètement éclaté, complètement wild. Puis la participation qui va prendre de plus en plus de place à mesure que le recueil avance. La participation à une réalité physique, à une réalité locale ancrée. Je pense aux poèmes qui sont intitulés, je pense qu'il y en a 3 ou 4, là, Roadkill sur le chemin des ressources. On n'a pas plus concret, plus localisé que ça. Évidemment, le poème qui travaille l'écoute de l'album de Victoria de Tommy Young, là. C'est cette réalité locale, mais avec le clash du début qui est avec les tu-clics, puis les likes, puis tout ça. Donc, vraiment, cet univers dans lequel on est tous, mais qui n'a pas vraiment d'ancrage, ou comme c'est plus comme des sables mouvants. Puis, je reviens à ce que tu disais tantôt, ta parenthèse de tantôt, là, sur la littérature comme littérature vivante aujourd'hui, avec la poésie et la poésie-performance. C'est ça, je me demande si le théâtre comme art vivant permet d'ancrer ce texte-là dans la réalité locale encore plus, selon toi.
Oui, je pense que oui, parce qu'il y a plus de tricks au théâtre. Tu sais, il y a plus de couches de sens pour venir appuyer l'ambiance, le territoire. Je le découvre en te le disant, mais je pense que pour moi, la réalité, c'est plus une ambiance, un état d'esprit qu'un fait physique. C'est une façon de vivre, une façon d'être. Puis justement, le théâtre peut aller jouer autour des ambiances, aller rajouter des couches avec le décor, avec la musique, avec l'éclairage. Que la voix, si t'es seul au micro, un poète, dans une lecture de poésie, déjà, la voix, tu peux faire des choses incroyables avec, puis juste avec les mots, tu peux amener les gens bien loin, tu sais. Mais cette couche-là supplémentaire, qui est une vibe, dans le fond, permet peut-être, en effet, de porter mieux cet ancrage-là dans la ruralité, dans le cas de Savèche, mais permet aussi de faire éclater les choses quand c'est le temps de le faire éclater avec, disons, La croisée des fourches, puis la succession de tu-clics. Mais le théâtre a peut-être plus de tricks à son arsenal que le poète à son micro, puis c'est ce qui permet d'aller là. Mais enfin, c'est une précision, je sais pas, je pense que ça va s'insérer à quelque chose qu'on a déjà abordé, mais c'est dans le processus de porter ça au théâtre, puis avec la présence de Mathieu, puis en fait, toutes les discussions qui ont eu lieu entre Alain et moi sur qui est Mathieu, c'est qui est ce personnage-là. Une des choses que ça a apporté le plus pour moi, c'est de vraiment concrétiser le rôle des poèmes dont le titre se termine par point d'âge dans Savèche, qui, pour moi, sont une espèce de journal de route. T'sais. Dans le fond, le locuteur, il a le ras-le-bol du début, il décalisse, il part en road trip, puis à un moment donné, il revient chez eux, puis ça va mieux. Tu sais, je veux dire, tu peux résumer sa vèche en, en trois phrases de même. Le sens de ces poèmes-là, j'ai toujours eu l'impression que peut-être il n'était pas super clair. Et vraiment, avec le personnage, ou en tout cas la voix que Mathieu peut porter puis rajouter, ça permet de vraiment rajouter cette notion-là que c'est un journal de route, que c'est un journal de road trip. Puis ça clarifie beaucoup la ligne narrative que moi, je vois depuis le début dans sa vèche, qui est comme une espèce de road trip à l'intérieur de soi avec un détour dans l'ouest. Puis le théâtre a permis ça. Ne serait-ce que pour ça, moi, je suis super content parce que ça a permis de super bien clarifier, même pour moi, le rôle de ces poèmes-là, que parfois je remettais en question leur place dans le recueil, mais non, tu sais, c'est juste que je les avais pas entendus dans la bouche de quelqu'un d'autre. Puis c'est sûr qu'il y a des poèmes qui ont sauté aussi pour la mise en théâtre, là. Pas parce qu'il n'était pas intéressant, juste parce qu'à un moment donné, ça devenait long. Mais ouais, le rapport de Mathieu, l'ajout de Mathieu au point d'âge, pour moi, c'est...
Et quand tu nous as expliqué à quel point ta poésie se rapprochait déjà graduellement un peu du théâtre, de la scène et de travailler des choses différentes, ça, c'est un aspect dont on n'a pas vraiment parlé, mais effectivement, l'apparition d'un personnage, donc d'une autre voix que celle du poète aussi, là. Qui ouvre la possibilité au dialogue, pas juste entre le poète et le lecteur, mais un dialogue à l'intérieur même du recueil. Là.
Oui, puis ça permet de porter un regard sur soi aussi, tu sais, parce que tout est comme circulaire, en fait, dans ce livre-là, le « tu » et « je » et le « je » et le « tu ». Qui fait qu'à quelques reprises, quand je regarde Mathieu dans le show, c'est le même regard que j'imagine le locuteur jeter sur la savèche, c'est-à-dire sur soi-même, c'est juste de la tendresse, puis... de se dire, c'est de valeur quand même.
Cannibaliser tendrement.
Ouais, ça semble un peu trop proche de Twilight comme wording, mais on peut dire ça. Mais non, c'est que c'est plus un regard tendre envers soi-même, de se dire, ça va pas, pitcher, tu sais. C'est un peu ça. Puis soi-même étant le monde dans lequel on vit.
Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté de jaser avec moi. Puis je pense que ça donne un éclairage intéressant. Puis du coup, j'ai encore plus envie qu'avant d'aller voir le spectacle. Ça fait que un jour, peut-être.
Un jour.
Ça sera le bon moment.
Bien, merci. Porte-toi bien. Fais attention.
Toi aussi.
Nous remercions Pénélope Cormier d'avoir préparé et mené les entrevues. Nous remercions également Jonathan Saunier pour la prise de son, le montage et l'environnement sonore. Arrière-scène sur sa vèche est une production du Théâtre populaire d'Acadie réalisée par Alain Roy et Ghislain Basque. La production de ce balado est rendue possible grâce au fonds présent numérique du Conseil des arts du Canada.